Réponse aux critiques adressées à George Fox. Il existe un ensemble de mails tristement crus au sujet de George Fox, principalement parmi les Quakers modernes. Ils cherchent à ternir la réputation de leur principal fondateur afin de pouvoir éteindre l'exigence du Christ pour le salut et ainsi apaiser leurs doutes quant au destin de leur propre vie future. Leurs attaques contre un homme mort, qui ne peut répondre à leurs calomnies, sont gravement erronées et les réponses ci-dessous y répondent. Un critique. Fox est accusé d'être essentiellement un rustre, un simple campagnard manifestement illusionné, dépourvu de manières, ayant fondé une religion sur des principes superficiels tels que s'adresser aux gens en disant Dieu, ne pas retirer leur chapeau par respect, refuser de prêter serment au tribunal ou de prononcer les serments courants de loyauté au roi, et refuser de payer la dîme. Réponse : la religion Quake est enracinée dans la croyance que la lumière intérieure en tout homme est l'alliance de Dieu, la vie et la lumière de l'homme, le Christ, qui peut enseigner à un homme comment vivre de manière agréable à Dieu, le convaincre de son péché et ôter de son cœur le désir de péché. La répétition de cette conviction et de cet enlèvement du péché, aboutissant à la purification, à la perfection, à la sainteté, à l'union avec Dieu et à l'entrée dans son royaume glorieux. Une telle foi est tout sauf superficielle. Les quatre pratiques visibles mentionnées ci-dessus ne sont pas l'invention de Fox, mais des commandements du Christ, donnés pour les raisons suivantes. À Diedao à l'époque de Fox, l'usage de Diedao était enseigné à l'école comme forme correcte d'adresse au singulier. Seuls les domestiques et les gens des classes inférieures étaient interpellés au singulier, Diedao. Les gens de la haute société voulaient qu'on s'adresse à eux au pluriel, you, afin de les honorer. Honorer des personnes importantes par l'adresse au pluriel, c'est ce que Dieu a abaissé jusqu'à la poussière. Le Seigneur a montré son mépris pour l'acception de personnes fondées sur la classe ou la position, et a commandé à son peuple d'en faire autant. Faire preuve de partialité envers certaines personnes est un péché, Jacques 2:9. B. Refus d'ôter le chapeau par respect. À cette époque en Angleterre, on portait le chapeau à l'église, le clergé prêchait avec, on le portait au dîner et, en règle générale, beaucoup plus qu'à l'époque moderne. Les rares occasions où l'on l'enlevait étaient plus clairement des occasions de respect. Un fils devait toujours se découvrir devant son père, tout le monde se découvrait devant le roi, et les hommes se découvraient devant toute personne de rang ou de position, comme la noblesse. Les Quakers appelèrent cela l' honneur du chapeau, qu'ils refusèrent de rendre à l'homme, y compris au juge au tribunal, ce qui entraînait des amendes ou l'emprisonnement pour ce refus de se découvrir en signe d'honneur. Ils ne retiraient leur chapeau qu'en prière, comme acte d'adoration. Ils inversèrent ainsi l' honneur du chapeau, au lieu de ce que la société rendait à l'homme en le refusant à Dieu, ils le rendirent à Dieu en le refusant à l'homme. Faire preuve de partialité envers certaines personnes est un péché, Jacques 2:9. C'est le serment Jésus a dit, encore, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu accompliras envers le Seigneur tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel car c'est le trône de Dieu, ni par la terre car c'est son marchepied, ni par Jérusalem car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre oui soit oui et votre non, non, car tout ce qu'on y ajoute vient du mauvais esprit de Satan en vous. » Matt 5:33 7 Jacques a dit, « Mais par-dessus tout, mes frères, ne jurez point, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Que votre oui soit oui et votre non, non, afin de ne pas tomber sous le jugement. » Jacques 5:12 Dès la dîme, le sacerdoce d'Aaron et des fils de Lévi, qui avait des commandements de prélever la dîme sur le peuple, est mort avec le sacrifice du Christ, qui s'est offert lui-même, établissant le Christ comme prêtre éternel d'un sacerdoce éternel. Ainsi, la dîme a cessé lorsque l'ancien sacerdoce a cessé, lorsque la loi mosaïque a cessé. La dîme est morte avec le sacerdoce lévitique. Les seuls endroits où la dîme est mentionnée dans le Nouveau Testament sont la prétention du pharisien se croyant juste et l'explication de sa disparition dans Hébreux, chapitre 7. Exiger ou payer la dîme ni le sacrifice du Christ, par lequel il a établi son nouveau sacerdoce éternel, annulant l'ancien. Par conséquent, quiconque prélève la dîme est un faux prophète, un antéchrist et un trompeur, et quiconque continue à payer la dîme ni le sacerdoce du Christ, tous deux s'exposent à la condamnation de Dieu. La critique selon laquelle la première religion Quake serait superficielle et fondée sur les idées de rustre campagnard ne fait que trahir l'ignorance hautaine de ceux qui portent ces accusations. En vérité, la religion Quake a rétabli la véritable Église du Christ, montrant le chemin par lequel l'homme peut être réconcilié avec Dieu, restauré à son image, restauré à la dignité d'Adam avant la chute, puis entrer en union avec le Christ et le Père. Personne d'une intelligence raisonnable n'appellerait cela une doctrine superficielle. En refusant de s'incliner, en refusant de s'adresser aux hommes importants au pluriel plutôt qu'au singulier d'Yé Dao, en refusant de les appeler maîtres, en refusant d'ôter leur chapeau en présence d'hommes importants, la société du monde dite correcte et polie fut indignée, souvent jusqu'à la violence. Ainsi, loups contre brebis furent identifiés à quiconque regardait sincèrement, parce que les loups tuaient les brebis. Cela servait aussi à un autre dessein, c'était la croix que les premiers Quakers devaient porter en souffrant cette persécution, une croix qui les conduisit à la perfection et au royaume. Quant à l'accusation selon laquelle Fox aurait été un rustre simple et campagnard, il est vrai qu'il n'avait pas d'éducation formelle et qu'il a grandi à la campagne. Toutefois, il était tout sauf rustre et simple. William Penn, fondateur de la Pennsylvanie, parlant 5 langues européennes plus 3 langues indiennes, ami des cours royales françaises et anglaises, éduqué à Oxford et cher ami de George Fox, le décrit ainsi. Il était un homme que Dieu avait doté d'une profondeur claire et merveilleuse, un discerneur des esprits d'autrui et très maître de lui-même. Et bien que sa compréhension des affaires du monde, et surtout ses expressions à leur sujet, puissent paraître grossières et peu à la mode à des oreilles délicates, son centre n'en était pas moins très profond. Et plus on l'examinait de près, plus ses qualités se manifestaient et instruisaient par l'exemple. Et aussi abruptement et de manière parfois hachée que ces phrases tombaient de sa bouche au sujet des choses divines, il est bien connu qu'elles servaient souvent de texte à bien des déclarations plus élégantes. Et en effet, cela montrait, au-delà de toute contradiction, que Dieu l'avait envoyé, et que rien de l'homme n'avait eu part à la substance ou à la manière de son ministère. Tant de grandes vérités, excellentes et nécessaires, qu'il prêchait à l'humanité, ne montraient rien du savoir ou de la sagesse de l'homme pour les valider. De sorte que, comme homme, il était un original, n'étant la copie de personne. Et son ministère et ses écrits montrent qu'ils viennent de quelqu'un qui n'a pas été enseigné par l'homme, ni n'a appris ce qu'il disait par l'étude, et ses enseignements n'étaient ni imaginaires ni spéculatifs. Ses enseignements étaient des vérités sensibles et pratiques, tendant à la conversion et à la régénération, et à l'établissement du royaume de Dieu dans le cœur des hommes, et la voie du royaume était son œuvre. Ainsi, bien des fois, j'ai été vaincu en moi-même et conduit à dire, avec mon Seigneur et Maître en ces moments-là, « Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Car bien des fois, mon âme s'est inclinée dans une humble reconnaissance envers le Seigneur de ce qu'il n'a choisi aucun des sages et des savants de ce monde pour être le premier messager, en notre époque, de sa vérité bénie aux hommes. Au contraire, il a pris quelqu'un qui n'était pas de haut rang, ni d'un langage élégant, ni instruit selon la manière de ce monde. Il l'a choisi afin que son message et l'œuvre qu'il l'envoyait accomplir arrivent avec moins de soupçons ou de jalousie envers la sagesse et les intérêts humains. Et ainsi le message pourrait avoir plus de force et de clarté sur les consciences de ceux qui cherchaient sincèrement la voie de la vérité par amour pour elle. Je vis, en contemplant avec l'œil de mon esprit que le Dieu du ciel avait ouvert en moi, les marques du doigt et de la main de Dieu se manifestaient visiblement dans ce témoignage. Cela se prouvait par la clarté du principe, par sa puissance et son efficacité dans la sobriété exemplaire, la simplicité, le zèle, la constance, l'humilité, la gravité, l'exactitude, la charité et le soin circonspect dans le gouvernement des affaires de l'Église, qui brillaient dans sa vie et dans la leur, ainsi que dans le témoignage que Dieu employa dans cette œuvre. Cela m'a donc grandement confirmé que cela venait de Dieu, et a engagé mon âme dans un profond amour, une crainte, une révérence et une reconnaissance pour son amour et sa miséricorde envers l'humanité en cela, dans cet esprit je demeure, et j'y demeurerai, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours. Samuel Taylor Coleridge, le grand poète et philosophe, qui avec Wordsworth fut l'un des fondateurs du mouvement romantique en Angleterre, a écrit à propos de Fox ce qui suit, une affirmation que j'oserais avancer comme suggérée par ma propre expérience, c'est qu'il existe une folio sur l'entendement humain et la nature de l'homme, qui aurait un droit bien plus juste à leur rang élevé et à leur célébrité si, dans l'énorme volume tout entier, on pouvait trouver autant de plénitude de cœur et d'intellect que ce qui jaillit dans maintes pages. Tiré de sa biographie à Litraria, le dirigeant Quake du XIe siècle, Rufus Jaune, a décrit Fox comme un évadé du réel, parce que Fox se souciait de prêcher l'évangile du Christ plutôt que de réformes sociales, comme Jaune. Puisque les Quakers modernes n'avaient jamais fait l'expérience de la pureté et du royaume, comme l'avaient fait Fox et des dizaines de milliers de premiers Quakers, les Quakers ultérieurs dits « Quakers » en doutèrent, rejetant Fox et le reste des fondateurs de leur société comme des illusionnés. Ce phénomène commençait à se produire dès 1670, voir la lettre d'avertissement de 1670 de Stephen Crisp. Thomas Elwood, qui connaissait Fox personnellement, résume ainsi l'impression qu'il avait de lui, Il était vaillant pour la vérité, hardi pour l'affirmer, patient pour souffrir pour elle, infatigable à y travailler, ferme dans son témoignage en sa faveur, immobile comme un rocher. Il était profond dans la connaissance divine, clair pour dévoiler les mystères célestes, simple et puissant dans la prédication, ferve dans la prière. Il était richement doué de sagesse céleste, prompt à discerner, saint de jugement, capable et prêt à donner, discret pour garder un conseil, ami de la justice, encourageant la vertu, l'équité, la tempérance, la douceur, la pureté, la chasteté, la modestie, l'humilité, la charité et le renoncement à soi en toutes choses, par la parole comme par l'exemple. Il avait une physionomie agréable, une stature virile, un maintien grave, une conversation courtoise, une communication pleine de poids, un discours instructif, exempt d'affectation dans les paroles comme dans la conduite. Un sévère repreneur des pécheurs endurcis et obstinés, un admoniteur doux et bienveillant de ceux qui étaient sensibles et conscients de leurs manquements, peu enclin à ressentir les torts personnels, prompt à pardonner les injures, mais d'un zèle ardent lorsque l'honneur de Dieu, la prospérité de la vérité, la paix de l'Église étaient en jeu. Il était très tendre, compatissant et plein de pitié envers tous ceux qui souffraient d'une quelconque affliction, plein d'amour fraternel, plein de sollicitude paternelle. Car en vérité, le soin des Églises du Christ pesait chaque jour sur lui, et il recherchait avec application leur prospérité et leur paix. Il était aimé de Dieu, aimé du peuple de Dieu, et ce qui n'était pas la moindre part de son honneur, la cible commune de l'envie de tous les apostats, bien qu'il recherchât ardemment leur bien. Lisez vous-même quelques-unes de ces lettres. Vous vous rendrez compte que vous lisez des paroles de l'Esprit de Dieu, tout comme les lettres de Paul. Le roi Agrippa pensait aussi que Paul était fou. Deux critiques, Fox était très jugeant, impoli et peu aimant. Réponse, Fox critiquait le péché chez les incrédules, mais avec la patience nécessaire pour qu'ils voient la vanité de leur voix. Voici un exemple de la manière dont il écrivait au monde, « Méfiez-vous des plaisirs, et estimez votre temps maintenant tant que vous l'avez, ne le dépensez pas dans les plaisirs ou les choses terrestres. Le temps peut venir où vous direz, vous aviez du temps, lorsqu'il sera passé. » Regardez donc l'amour de Dieu maintenant tant que vous avez du temps, car il vous amène à avoir en horreur toutes les vanités et les plaisirs du monde. Oh, considérez, le temps est précieux, craignez Dieu et réjouissez-vous en celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis poussé à vous avertir de prendre garde à céder à vos propres volontés. Aimez la croix, ne satisfaites pas votre propre esprit dans la chair, mais estimez votre temps tant que vous l'avez, et conduisez votre vie dans l'obéissance à ce que vous savez déjà, dans l'obéissance à Dieu. Vous ne serez pas condamné pour ce que vous ne savez pas, mais seulement condamné pour ce que vous savez et choisissez de ne pas obéir. Réfléchissez avant qu'il ne soit trop tard, examinez-vous, voyez où vous en êtes et qui vous servez. Car si vous blasphémez Dieu et prenez son nom en vain, si vous jurez et mentez, si vous cédez à l'envie, à la haine, à la convoitise et à l'avidité, aux plaisirs et à l'excès, ou à tout autre vice, soyez assurés que vous servez le diable, mais si vous craignez le Seigneur et le servez, vous aurez en horreur toutes ces choses. Celui qui aime Dieu ne blasphémera pas son nom, mais là où l'on s'oppose à Dieu et où l'on sert le diable, cette profession est triste et misérable. Oh, estimez votre temps, et n'aimez pas ce que Dieu interdit, le mensonge, la colère, la malice, l'envie, la haine, l'avidité, la convoitise, l'oppression, la gourmandise, l'ivrognerie, la débauche, et toute injustice, Dieu l'interdit. Considérez donc, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas tourner en dérision par de vaines paroles, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Obéissez donc à ce qui vous convainc de tout mal, et vous dit que vous ne devez faire aucun mal. Cela vous conduira à la repentance et vous gardera dans la crainte du Seigneur. Oh, regardez les miséricordes de Dieu, estimez-les, et ne les transformez pas en comportements sans retenue. Oh, fixez le Seigneur et non les choses terrestres. Comme Jésus, Fox critiquait le péché, mais jamais le pécheur, qui ne prétendait pas être un chrétien sauvé. Cependant, Fox était quelque peu critique envers ceux qui se disaient chrétiens, mais qui ne marchaient pas comme des chrétiens. En voici un exemple. Vous suivez ceux qui cherchent leur profit dans leur charge, des chiens muets et avides qui n'en ont jamais assez, Ésaïe 56, 11, et ceux qui dominent par leur statut, et vous soutenez l'horrible, la chose immonde dans le pays. Ôtez-leur leur statut, et ils ne vous domineront pas par leur position. Vous suivez ceux qui sont des mercenaires, et ils vous prêchent la paix, mais si vous ne mettez pas de nourriture dans leur bouche, ils prépareront la guerre contre vous, comme vous pouvez le lire dans Michée 3, 5. Ceux-là sont comme ceux contre lesquels le Seigneur envoya Michée crier, et ce sont des enfants insensés, un peuple stupide, habile à faire le mal, mais sans intelligence pour faire le bien, comme vous pouvez le lire dans Jérémie 4, 22. Ceux-ci cherchent la toison et vous dévorent, des gens comme ceux contre lesquels le Seigneur envoya Ézéchiel crier, Ésaïe 34. Mais, dit le Seigneur, je rassemblerai mes brebis de leur bouche, elles ne seront plus leur proie. Ici, avec les saints hommes de Dieu, vous êtes jugés parmi ceux contre lesquels ces saints hommes ont crié. Dans la lumière, vous êtes tous vus, vous qui soutenez de tels hommes mentionnés plus haut, et que les hommes appellent ministres du Christ, lesquels se trouvent parmi ceux contre lesquels les saints hommes de Dieu ont prononcé des malheurs. Dans la lumière, vous êtes tous vus, et dans la lumière ils sont tous condamnés. Couvrez donc vos lèvres et fermez la bouche de honte, pour avoir jamais dit que ces hommes sont les ministres du Christ, ils sont du même type que ceux contre lesquels le Seigneur envoya ses prophètes crier. Par son Fils et par les Écritures, ils sont tous éprouvés et vus, et vous aussi qui les soutenez, ceux qui reçoivent dons et récompenses, le salaire de l'injustice, contre lesquels le Seigneur envoya ses saints apôtres crier, ceux qui, par cupidité et parole feinte, ont fait de vous une marchandise, écoutez. Par la lumière et la vie des Écritures, vous êtes vus et condamnés par la lumière, vous qui haïssez la lumière et agissez contrairement à la lumière, tout en professant que les Écritures sont votre règle. Par la lumière, ils sont tous vus comme étrangers à la vie de Dieu, étant parmi ceux contre lesquels les saints apôtres et prophètes ont crié. Vous qui suivez de tels hommes, vous êtes comme ces femmes légères qu'on mène captives, jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, certaines apprenant encore 20, 30, 40, voire 60 années ou plus, toujours apprenant, mais jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, comme vous pouvez le lire chez Timothée et Pierre et Jude. Vous qui suivez de tels gens, vous n'écoutez pas le Fils de Dieu. Mais à l'égard de ceux qui prêchaient et enseignaient dans l'erreur sans avoir les paroles de l'Esprit de Dieu, les critiques de Fox étaient assurément dures. Ils critiquaient les chefs religieux dans l'espoir de les pousser à cesser d'enseigner les paroles de la Bible sans les paroles de l'Esprit. En voici un exemple, Fox écrivant au prêtre puritain d'Ulverston, que Margaret Fox écoutait avant de devenir Quake. « La parole du Seigneur pour toi, ô Lampite, tu es un trompeur, repu et ivre de l'esprit terrestre, errant ça et là dans les Écritures et mêlant ton esprit aux états des saints. Tu avais une prophétie, comme ton père Balaam en avait une, mais tu t'en es écarté comme ton père. Un homme dont le fruit s'est desséché, j'en suis témoin, et beaucoup qui ont connu ton fruit en ont vu la fin. Il est desséché, et il voit où tu es dans le monde aveugle, un aveugle conducteur d'aveugles, une bête se vautrant et se roulant dans la terre et dans la convoitise, un homme égaré loin de l'Esprit du Seigneur, autrefois destiné à la condamnation. Tu es assis sur le siège des pharisiens, tu es appelé maître par les hommes, tu te tiens à prier dans les synagogues, et tu as la première place dans les assemblées, un vrai hypocrite marchant sur les traces des pharisiens, et dans les voies de tes pères, les hypocrites, contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé des malheurs. Tel tu es vu dans la lumière, et par la lumière tu es compris. Ce qui est ta condamnation, toi qui la es, et tu le seras éternellement, à moins que tu ne te repentes. Pour toi, ceci est la parole de Dieu, car tu n'es pas dans la voie du Christ, mais dans celle des pharisiens, comme tu peux le lire dans Matthieu 23. Tous ceux qui reconnaissent les paroles du Christ peuvent voir que tu es dans la voie des pharisiens. Le Christ, qui est mort à Jérusalem, a prononcé des malheurs contre ton espèce, et le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le malheur demeure sur toi, et tu ne peux jamais en échapper, si ce n'est par le jugement, la condamnation et une véritable repentance. Pour toi, ceci est la parole de Dieu. C'est à ce qu'il y a de Dieu dans ta conscience que je parle, ce qui rendra témoignage à la vérité de ce que j'écris et te condamnera. Et quand tu seras dans ton tourment, bien que maintenant tu enfles dans ta vanité et vives dans la méchanceté, souviens-toi que tu as été averti de ton vivant. Quand la condamnation éternelle sera étendue sur toi, tu témoigneras que ceci était la parole du Seigneur Dieu pour toi, et si jamais ton œil voyait la repentance, tu témoignerais que j'ai été un ami de ton âme. Remarquez, Fox parle les paroles de l'Esprit de Dieu, souvent en présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. Cliquez ici pour voir d'autres exemples. Mais en son temps, le Christ était aussi extrêmement jugeant envers ceux qui enseignaient la religion dans l'erreur. Par exemple, voici ce que le Christ avait à dire au sujet de ses prédicateurs et enseignants qui n'avaient pas été purifiés dans leur cœur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, tandis qu'au-dedans vous êtes plein de rapines et d'excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que leur extérieur devienne aussi propre. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Ainsi vous paraissez au dehors juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité péché. Matthieu 23, 25, 28 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de tous les mensonges. Jean 8, 44 voyait les critiques de Jésus pour beaucoup plus, et Jean-Baptiste avait ceci à dire au sujet des chefs religieux hypocrites. Mais voyant que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Matthieu 3, 7. Oui, Fox était très critique envers les enseignants religieux, les prêtres prédicateurs et, dans une moindre mesure, envers les croyants de profession de son époque. Mais c'est parce qu'ils étaient de faux chrétiens, ils n'avaient pas été changés de cœur, purifiés, crucifiés quant à leurs convoitises et affections. Pour être prédicateurs, ils doivent être formés et autorisés par le Christ lui-même, avec son esprit guidant leurs paroles. Ceux qui enseignaient l'erreur étaient des guides aveugles, conduisant les autres au fossé et à la destruction. À partir des années 1800, les Quakers en général jugèrent comme épouvantables les critiques et l'opposition verbale de leurs fondateurs à l'égard des sectes et des prêtres protestants et catholiques. Les Quakers ultérieurs jugèrent leurs fondateurs intolérants, impolis, peu aimants, jugeants, etc. C'est le cas d'hommes inachevés de la chair jugeant un homme spirituel manifestement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Ces rêveurs immondes souillent la chair, rejettent l'autorité et parlent mal des dignités. Jude 1, 8. Fox et beaucoup des premiers Quakers étaient dans le royaume des cieux, donc des dignités célestes, dignes de respect. Un homme charnel est sans intelligence et d'une arrogance extrême s'il juge un homme de l'esprit. Un homme charnel ne peut concevoir le degré de mépris dans lequel Dieu tient les faux prophètes, et par conséquent, il ne ménageait pas les coups de langue, surtout lors d'un débat en présence d'auditeurs susceptibles d'avoir été égarés. De plus, Paul a dit, « Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, Galates 9, et car il y a beaucoup d'insoumis, de vains discoureurs et de séducteurs, surtout parmi ceux de la circoncision, il faut leur fermer la bouche, qui bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux, Tite 1, 10, 11. Ils prêchaient pour de l'argent, contre les commandements du Christ et le commandement de Pierre. Prêcher une fausse formule de salut, qui est un faux évangile, endommage de manière incommensurable l'œuvre du Christ, et doit être vigoureusement combattu comme Fox le fit. Babylone a péché, vous tous qui tendez l'arc, tirez contre elle, n'épargnez aucune flèche, car elle a péché, Jère 50, 14. Ainsi Fox faisait son devoir envers Dieu en critiquant ceux qui parlaient des Écritures, mais ne marchait pas selon le même esprit qui a écrit les Écritures. Parler de religion tout en demeurant dans le péché, c'est être hypocrite. Dire que Fox n'était pas aimant et qu'il était jugeant, c'est dire que Jésus, Pierre, Paul et Jude étaient jugeants et peu aimants. De telles critiques ne connaissent pas les Écritures. Trois critiques, Fox était un dictateur, disant aux gens de la société ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas faire, insistant sur certaines conduites et certaines formes de culte qui violent la conscience humaine individuelle. Encore aujourd'hui, des livres sont vendus, écrits par un universaliste Quake, qui porte exactement cette accusation contre Fox, et ce pamphlet classique l'accable encore en le présentant comme un hypocrite, affirmant d'abord que tout relève de la conscience individuelle, puis se contredisant pour imposer des normes au sein de l'Église. Réponse : Fox fut fréquemment critiqué de façon semblable en son temps. Voici ce que Fox disait au sujet des accusations portées contre lui : tous ceux qui nient les règlements sans prescription pourraient tout aussi bien nier toutes les Écritures qui ont été produites par la puissance et l'Esprit de Dieu. Car ne prescrivent-elles pas comment les hommes doivent marcher envers Dieu et envers les hommes, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau ? Oui, depuis la toute première promesse du Christ dans la Genèse, ce que les gens doivent croire et en qui ils doivent se confier, et tout au long jusqu'aux prophètes. Le Seigneur n'a-t-il pas prescrit à son peuple par les pères, puis par ses prophètes ? N'a-t-il pas prescrit au peuple comment il devait marcher, bien qu'il se soit retourné contre les prophètes dans l'Ancienne Alliance parce qu'il leur déclarait ou prescrivait la voie par laquelle il pouvait marcher pour plaire à Dieu et demeurer en sa faveur, au jour du Christ ? N'a-t-il pas prescrit et enseigné comment les gens devaient marcher et croire ? Et après lui, les apôtres n'ont-ils pas prescrit au peuple comment ils pouvaient parvenir à croire, recevoir l'Évangile et le royaume de Dieu, les dirigeant vers ce qui leur donnerait la connaissance de Dieu, et comment ils devaient marcher dans la nouvelle alliance au jour de l'Évangile, et par quelle voie ils devaient parvenir à la Sainte Cité ? Et les apôtres n'ont-ils pas envoyé leurs décrets aux églises par des hommes fidèles choisis, qui avaient exposé leur vie pour l'amour du Christ, par lesquels elles furent affermies ? Ainsi, vous qui niez les prescriptions produites par la puissance et l'Esprit de Dieu, vous vous opposez par là à l'Esprit qui les a produites en tous les saints hommes de Dieu. Cet Esprit crie, « Nous ne devons pas juger la conscience, nous ne devons pas juger les questions de foi, nous ne devons pas juger les esprits ou les religions. » Et il y a un esprit relâché qui crie pour la liberté et contre les prescriptions, et pourtant il prescrit des voies, tant par la parole que par les écrits. Le même esprit crie contre le fait de juger et ne veut pas être jugé, et pourtant il juge avec un mauvais esprit. George Fox, voici ce que Jésus a dit au sujet de ceux qui péchaient dans l'Église. De plus, si ton frère pêche, va et reprends-le en particulier entre toi et lui seul. S'il t'écoute et se repent, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes de plus, afin que toute affaire soit établie sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, mais s'il refuse d'écouter l'Église et de se repentir, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Matthieu 18, 15-17. Voici ce que Paul dit à propos de la discipline dans l'Église. Mais maintenant je vous écris de ne pas fréquenter celui qui, se nommant chrétien, est sexuellement immoral, ou avare, ou idolâtre, ou outrageant, ou ivrogne, ou escroc oppresseur, ne mangez même pas avec une telle personne. 1 Corinthiens 5, 11 Fox précise ce que Paul a écrit ci-dessus. Ainsi, l'apôtre ici ne parle pas des fornicateurs, des avares idolâtres et des extorqueurs du monde, qui étaient en dehors de l'Église, car Dieu juge cela. Mais les saints, les apôtres et la véritable Église devaient juger ceux qui pratiquaient ces choses au sein de l'Église, montrant que la véritable Église chrétienne avait une puissance, et ne pas fréquenter ni manger avec ceux qui, tout en professant le Christ, avaient de telles pratiques, sachant que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, ni les ivrognes, ni les fornicateurs, ni les voleurs, ni les injurieux, ni les extorqueurs, ni les avares idolâtres. Ceux qui vivaient dans ces mots n'étaient pas en état d'hériter du royaume de Dieu, car il est de sorte que si les saints fréquentaient de telles personnes non lavées, non sanctifiées, non justifiées, ou mangeaient avec elles, ou avaient communion avec elles, ils prenaient les membres du Christ et les joignaient à une prostituée. Car celui qui est joint à une prostituée est un seul corps, car deux, dit-il, seront une seule chair. Et tiré de la lettre 251 de Fox, et tous ceux qui crient, à bas vos lois, nous ne voulons aucune de vos lois. À ceux qui viennent à la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, laquelle affranchit de la loi du péché et de la mort et renverse cette autorité, cette vie était avant la mort et le péché, et demeure lorsqu'ils ont disparu, et dans la vie en Jésus-Christ se trouve la communion des saints, leur unité et le lien de la paix. Tous ceux qui crient, tant contre les lois sont des fils de Bélial, et voudraient être sans le joug de la loi du Fils de Dieu. Ceux-là ont toujours été les semeurs de troubles et de schismes séparés du corps, et ils se donnaient la liberté de tout dire, comme vous pouvez le lire dans le livre des Rois, au jour de Jézabel, et au jour d'Étienne, et pourtant ceux qui crient tant contre les lois vivent eux-mêmes dans la loi du péché et de la mort, à laquelle ils obéissent lorsqu'ils font le mal, ils sont sans intelligence de la loi juste, dans laquelle les justes vivent et qu'ils voient. C'est pourquoi il faut exhorter et reprendre ceux-là, s'ils se réclament du nom de Quaker et ne sont pas dans la vie. George Fox, voici ce que William Penn, qui le connaissait bien, avait à dire au sujet de la prétendue pointe de fer de Fox au sein de la société. Dans toutes ces circonstances, bien que George Fox fût la cible de ce mécontentement, il supporta toutes leurs faiblesses et leurs préjugés, et ne rendit pas dureté et accusation pour ce qu'il recevait d'eux. Au contraire, il leur pardonna leurs paroles faibles et amères, priant pour qu'ils puissent sentir le tort qu'ils se faisaient, et voir la subtilité de l'ennemi qui cherche à déchirer et diviser, et revenir à leur premier amour qui ne soupçonnait aucun mal. Et vraiment, je dois dire que, bien que Dieu l'eût visiblement revêtu d'une préférence et d'une autorité divine, et qu'en effet sa seule présence exprima une majesté religieuse, il ne l'abusa jamais, mais tint sa place dans l'Église de Dieu avec une grande douceur, et avec une humilité et une modération des plus attirantes. Car en toutes occasions, à l'exemple de son bienheureux maître, il était serviteur de tous, tenant et exerçant sa charge d'ancien dans la puissance invisible qui les avait rassemblés, avec révérence pour la tête et souci du corps. Sa charge d'ancien n'était reçue que dans cet esprit et cette puissance du Christ, comme le premier et principal ancien en ce temps. Il était donc digne d'un double honneur, et c'est pour cette même raison qu'il lui fut accordé par les fidèles de ce jour, parce que son autorité était intérieure et non extérieure, et qu'il l'obtint et la conserva par l'amour de Dieu et la puissance d'une vie sans fin. J'écris selon ma propre connaissance et non par ouï dire, et mon témoignage est vrai, ayant été avec lui des semaines et des mois entiers en maintes occasions, et ces occasions étaient au plus près de lui dans les circonstances les plus difficiles. Et de nuit comme de jour, par mer et par terre, ici et dans des pays étrangers, je puis dire que je ne l'ai jamais vu hors de sa place ni incapable de répondre à aucun service ou circonstance, car en toutes choses il s'acquitta comme un homme, oui, comme un homme fort, un homme nouveau et tourné vers le ciel. Un homme de Dieu et un naturaliste et tout cela de la main du Dieu Tout-Puissant. J'ai été surpris par ses questions et ses réponses au sujet des choses naturelles, car tout en ignorant les sciences inutiles et sophistiquées, il avait en lui les fondements d'un savoir utile et louable, et il le chérissait partout. Civil au-delà de toutes les formes d'éducation dans son comportement, très tempérant, mangeant peu et dormant moins encore, bien qu'il fût d'une forte corpulence. Presque tous les premiers Quakers désignaient George Fox comme « cher George Fox ». Les témoignages de peine, Elwood et de 30 autres sur ce site, concernant l'humilité, l'honnêteté et la sincérité de Fox, proviennent d'hommes qui avaient une foi profonde en Jésus-Christ, qui étaient attachés à une honnêteté absolue, qui allèrent dans de dures prisons Fox pendant 6 ans et demi, certains jusqu'à 20 ans à cause de leur refus de jurer comme on l'ordonnait, ou leur refus d'ôter leur chapeau au tribunal pour montrer du respect aux juges, ou leur refus de payer la dîme aux paroisses géographiques de leur résidence, ou parce qu'ils se... Les premiers Quakers s'inclinaient devant le jugement de Dieu, qui était contre toute fausseté. Comparer l'engagement des premiers Quakers envers la vérité à celui des critiques universalistes Quakers d'aujourd'hui, qui ne voient aucune nécessité de Jésus-Christ pour leur vie future et qui méprisent la confirmation de leur fondateur, Fox, selon laquelle Jésus est l'unique voie du salut par la croix intérieure du renoncement à soi. Puisqu'il existe deux rapports différents sur le caractère de Fox, le premier, provenant de témoins oculaires qui vivaient dans la crainte et la révérence de Dieu, et qui tous passèrent des années dans de dures prisons, beaucoup mourant dans les conditions déplorables et prisons, par obéissance à Dieu pour leur refus de jurer au tribunal, leur refus d'ôter leur chapeau au tribunal pour montrer du respect aux juges, leur culte d'une manière différente de l'Église d'Angleterre épiscopale anglicane, leur refus de payer la dîme aux paroisses géographes. Et le second rapport, provenant de critiques universalistes assis dans leur fauteuil, 300 ans plus tard, qui n'ont aucune crainte de Dieu. Lequel est le plus crédible? 4 critiques, Fox n'a pas été suffisamment pardonnant envers James Naylor lorsqu'il est tombé. Lorsque Naylor fut sévèrement puni par le Parlement, bien au-delà de ce que sa sotte défaillance de jugement méritait, Robert Rich, un marchand de Londres, lui tint la main pendant le supplice et embrassa ensuite ses plaies. Les critiques de Fox disent que Rich a manifesté un véritable pardon, tandis que Fox lui-même aurait dû être présent pour aider Naylor. Réponse : ils ne comprennent pas que Robert Rich était l'un des admirateurs obséquieux, selon Saul Astérisque, dont les flatteries contribuèrent au déclin initial de Naylor, et que, pour tout Quake, continuer à s'associer à lui n'aurait fait que continuer à noircir la réputation des Quakers. Plus important encore, à ce stade Naylor n'était pas encore arrivé à la repentance, continuant à chercher à justifier ses actes, même durant son procès et les entretiens qui suivirent. Après ses châtiments horribles et immérités et pendant son isolement à la prison de Bridewell selon Saul, les écailles lui tombèrent des yeux, il pouvait voir sa grave erreur. Naylor lui-même dit alors « Mon cœur est brisé à cause de l'offense que j'ai causée à la vérité de Dieu et à son peuple. » Saul rapporte aussi que Robert Rich s'allia ensuite à John Perrow, un Quake qui quitta la société et devint un ennemi acharné des Quakers, écrivant deux livres critiques contre les Quakers The Spirit of the Rat et Tyranny and Hypocrisy Detected, et fut même pris en flagrant délit de falsification du nom d'Edward Burroughs au bas d'un document scandaleux, et qui, plus tard, persécuta durement les Quakers en Amérique pour leur refus de jurer. Les critiques de Fox ont encore tort. Astérisque Saul, The History of the Quaker Vol. 1 pp. 178-194. Cet ouvrage a été publié en 1695, 30 ans après l'incident, avec des entretiens de témoins oculaires, dont l'un des membres du groupe des admirateurs obséquieux de Naylor, en particulier Anna Stranger, qui avait depuis été rétablie dans l'unité de l'esprit. Saul est considéré comme l'historien définitif du premier mouvement Quaker. Le rapport de Saul sur l'absence de repentance de Naylor est confirmé par 2 lettres de Richard Robeson à Margaret Fell, après avoir rendu visite à Naylor en prison. Citant son compte rendu tiré de la lettre, From Friend Library, Vol. XI 1847, page 338, Londres le 25 du 9e mois, 11e mois 1656 au 6e jour, j'étais avec James. Le pouvoir des ténèbres dans les femmes domine sur lui, comme je te l'ai écrit dès le commencement. Beaucoup de personnes viennent chaque jour auprès d'eux, tant des gens du monde que de ceux qui ont été convaincus, et ils s'étonnent des imitations qui se jouent parmi eux, car ils se mettront souvent à genoux devant lui, et c'est. James s'adresse assez souvent aux amis comme pour justifier toutes leurs pratiques comme innocentes. J'ai été poussé à lui parler lorsque j'étais avec lui, mais il n'était pas disposé à m'entendre ouvrir la vérité sur quoi que ce soit devant le peuple. Tous les conseils des frères à son égard sont rejetés dans l'état où il se trouve actuellement, bien que des entrailles de tendresse aient été étendues vers lui. Certains qui sont instables pensent qu'il y a une grande puissance parmi eux, mais bien que, pour le moment, ce soit comme un nuage qui en obscurcit quelques-uns, étant sorti de la terre, à la fin des jours de l'imitation, cela retombera sur la terre, et le soleil brillera au-dessus. Et dans une lettre datée de Londres, le 22 du 12e mois, 2e mois 1657, il écrit ainsi, « Quant à James Nelly, il demeure à Bridewell et on le tient à l'isolement. On ne permet à aucun ami de venir auprès de lui, mais sa femme parvient parfois à le voir. Il est toujours séparé de la vérité et des amis, mais l'œuvre de Dieu continue et prospère. Alexander Pock est ici, Edward Burroughs est dans l'Essex, et Francis Raugle dans le Kent. D'après la même source, dans une lettre ultérieure de Richard Robeson, Il rapporte que les femmes disciples de Naylor avaient fixé des réunions publiques aux lieux où Naylor avait auparavant été puni, causant pour le moment un grand scandale à la Voix de la vérité ici. Voir la lettre de Fox, très bienveillante mais ferme à Naylor avant même son arrestation. Et enfin, considérer les propres paroles de Fox comme sa défense contre cette accusation. Fox écrivant dans son journal, « Lorsque Naylor est venu à Londres, il a résisté à la puissance de Dieu en moi et à la vérité que je lui ai déclarée, cela devint l'un de ses plus grands fardeaux. Mais il a fini par voir son erreur en s'égarant et à la condamner, et après quelque temps il s'est repenti, comme on peut le voir plus pleinement dans le récit imprimé de sa repentance, de sa condamnation et de son rétablissement. James Naylor fut un monument de la fragilité humaine. Son don pour le ministère était éminent, son expérience des choses divines véritablement grande. Il tomba pour avoir relâché sa garde vigilante contre les esprits trompeurs, mais fut rétabli au travers de profondes souffrances et d'un repentir sans feinte. Ses propres écrits sont la description la plus claire et la plus vivante des diverses dispensations qu'il traversa. Certains d'entre eux méritent d'être transmis à la postérité la plus tardive. Bien que les actes de Naylor aient entraîné d'immenses persécutions contre les Quakers, Fox a ainsi consigné son pardon chrétien à l'égard de Naylor et recommande même ses écrits à la postérité. Pourtant, en 2006, on entend encore cette fausse accusation de la part de critiques modernes de Fox. Fox n'a jamais pardonné à James Naylor son erreur. En outre, William Dewsbury rapporte qu'il a organisé et assisté à une réunion de réconciliation entre Fox et Naylor, avec Edward Burroughs et Francis Haugill. Dewsbury écrit à propos de la réunion, « Le Seigneur m'a beaucoup mis à cœur que mon cher George Fox et James Naylor puissent se rencontrer. Mon labeur fut grand en esprit, jusqu'à ce que le Seigneur réponde, ce qui, au jour qu'il avait fixé, fut fait. Grande fut sa celle du Seigneur Majesté parmi son peuple, le jour où il a guéri la brèche, qui avait été si longtemps, pour la tristesse des cœurs de beaucoup. Le Seigneur revêtit mes chers frères, George Fox, Edward Burroughs, Francis Haugill, d'une précieuse sagesse. Son esprit de guérison abonda en eux, avec le reste du peuple du Seigneur présent ce jour-là, et selon leur mesure de l'esprit du Seigneur en tout, il les conduisit à l'accueillir avec joie de cœur. Cette critique est totalement dépourvue de fait. 5 critiques. Le mariage de Fox avec Margaret Fell n'aurait pas été clair. Réponse. C'est une calomnie populaire et actuelle parmi les Quakers modernes. Examinons les faits, que ces critiques ignorent. Leur mariage eut lieu 11 ans après la mort du premier mari de Margaret, le juge Fell. Cela dépasse assurément la période de deuil coutumière d'un an avant remariage. B. Le Christ ordonna à Fox d'épouser Margaret. Il pensait que le mariage était au-dessous de son état, et fut surpris qu'on le lui demandât, ne le faisant que sans aucun désir de sa part. D'après le Cambridge Journal, Walter Newton, un voisin de mes proches, qui avait été un ancien puritain, dit qu'il avait entendu dire que j'étais marié, et il me demanda pourquoi je m'étais marié. Je lui répondis que c'était un témoignage afin que tous puissent entrer dans le mariage, comme au commencement, et un témoignage afin que tous puissent sortir du désert pour aller aux noces de l'agneau. Et il dit qu'il pensait que le mariage n'était que pour la procréation des enfants. Je lui dis, je n'ai jamais pensé à une telle chose, mais je me suis marié uniquement par obéissance à la puissance du Seigneur, je jugeais ces choses d'au-dessous de moi. Mariage et enfants. J'avais prévu ce mariage dans la semence, pourtant je n'avais reçu aucun commandement de me marier avant il y a 6 mois, bien que les gens aient longtemps parlé de mon éventuel mariage. L'esprit de certaines personnes était embrouillé, mêlé, confus au sujet de ce mariage, mais la puissance du Seigneur vint sur tous et apaisa tous leurs esprits, ce que certains confessèrent ensuite. C'est le soin avec lequel il rechercha la protection des souhaits des enfants et de leurs droits de propriété dépassait tout ce qui se faisait à l'époque. D'après le journal, après une réunion dans le Gloucestershire, nous voyageâmes jusqu'à Bristol, où je rencontrai Margaret Fell, venue rendre visite à sa fille Isabelle Yeoman. J'avais vu de la part du Seigneur, un temps considérable auparavant, que je devais prendre Margaret Fell pour épouse, et lorsque je le lui mentionnai pour la première fois, elle en reçut de Dieu la réponse de vie. Mais bien que le Seigneur m'eût ouvert cela, je n'avais pas encore reçu de lui l'ordre de l'accomplir alors. Je laissai donc la chose en repos et poursuivis l'œuvre et le service du Seigneur, selon qu'il me conduisait, voyageant de haut en bas dans cette nation et à travers l'Irlande. Mais maintenant, étant à Bristol et trouvant Margaret Fell là, il s'ouvrit en moi, de la part du Seigneur, que la chose devait s'accomplir. Après en avoir discuté ensemble, je lui dis que, si elle aussi était satisfaite de l'accomplir maintenant, elle devait d'abord faire venir ses enfants, ce qu'elle fit. Lorsque le reste de ses filles arriva, je demandai à elle et à ses gendres, « Avez-vous quelque chose contre cela ou pour cela ?» désirant qu'il parle, et tous, chacun en particulier, exprimèrent leur satisfaction quant à la proposition. Puis je demandai à Margaret, « As-tu exécuté la volonté de ton mari envers tes enfants ?» Elle répondit, « Les enfants savent que je l'ai fait. » Alors je leur demandai si leur mère se mariait, ils n'y perdraient pas. Et je demandai à Margaret si elle avait fait quelque chose qui y fasse différence, et que si oui, elle pouvait en parler aux enfants. Les enfants dirent, « Elle nous a répondu là-dessus, et désire que vous n'en parliez plus. » Je leur dis, « Je suis franc, et je veux que toute chose soit faite clairement, car je ne cherche aucun avantage extérieur pour moi-même. » Ainsi notre intention de mariage fut exposée devant les amis, en privé et en public, à leur entière satisfaction, et beaucoup en rendirent témoignage, car cela venait de Dieu. Ensuite, une réunion ayant été fixée pour le mariage dans la salle de réunion publique de Broadmead, à Bristol, nous nous prîmes l'un l'autre en mariage, le Seigneur nous unissant dans un honorable mariage, dans l'alliance éternelle et la semence immortelle de la vie. Durant cette union, des témoignages vivants et forts furent rendus par les amis, selon qu'ils étaient mus par la puissance céleste qui nous avait unis. Puis un certificat relatant tant les démarches que le mariage fut lu publiquement et signé par les parents et par la plupart des anciens amis de cette ville, outre beaucoup d'autres venus de diverses parties de la nation. Note pour confirmer cela et montrer la justice et le scrupule de conscience qui caractérisait George Fox au sujet des biens et le fait que ses opinions devançaient celles alors courantes sur ce sujet, les circonstances suivantes, rapportées dans son journal, serviront d'illustration. Poursuivi pour les dîmes au sujet des biens de sa femme à Swarthmore, William Mead, gendre de Margaret Fox, comparut devant le tribunal, où, dit-il, William Mead dit au juge que je m'étais engagé à ne jamais me mêler des biens de ma femme. Les juges pouvaient à peine croire qu'un homme le ferait, alors il leur montra l'écrit portant ma main et mon sceau, ce dont ils furent stupéfaits. L'écrit par lequel il renonçait à toute prétention sur les biens de celle qui allait devenir son épouse, précurseur des contrats prénuptiaux d'Audjedui. Le mariage de George Fox et Margaret Fell fut plus que convenable, sans la moindre trace de scandale, et largement approuvé par des milliers de membres de la société. Fox épousa Margaret Fell dans un état qui le plaçait bien au-dessus de toute convoitise pour une femme. Ce fut véritablement un mariage fait au ciel, comme l'avait ordonné le roi des anges, le Christ lui-même. Si ces critiques, George Fox et Margaret Fell auraient été ensemble dans la prison de Lancaster avant leur mariage, ce qui laisse entendre qu'il se passait quelque chose entre eux. Réponse : George Fox fut emprisonné à l'isolement dans la partie extérieure du château de Lancaster, dans une pièce exposée aux tempêtes hivernales, sans chauffage, avec une fumée si épaisse qu'il ne pouvait voir la lumière d'une chandelle, et qui menaçait de l'étouffer. Comme le décrit un auteur indépendant dans les mémoires de Margaret Fox, la chambre de Fox se trouvait dans le donjon, et la fenêtre de ce qui fut sa demeure durant de longs mois lugubres est visible au-dessus d'une grande partie de l'ancienne ville. C'était manifestement, à une époque, une pièce d'une taille considérable, mais au temps de Fox elle était vieille et en ruine. Il pouvait à peine traverser sa chambre, tant le plancher était délabré. La fumée venant des autres prisons était si dense que parfois, une chandelle allumée était à peine visible, et il courait un danger imminent d'être étouffé. Et ce n'est qu'avec peine que le geôlier fut persuadé de déverrouiller l'une des portes supérieures afin de laisser sortir la fumée. Par temps humide, y compris l'hiver, la pluie tombait sur son lit. Les incommodités de sa prison affectèrent Fox à tel point, durant un hiver froid et prolongé, que son corps enfla et que ses membres s'engourdirent. Lorsqu'il fut amené aux assises de mars 1665, il était si faible qu'il pouvait à peine se tenir debout ou se mouvoir. Comme le décrit encore un auteur indépendant dans les mêmes mémoires de Margaret Fox, Margaret fut emprisonnée dans une salle collective pour les Quakers, appelée la « Chambre des Quakers ». Et les amis de Fox dans ce voisinage ne furent pas non plus épargnés. Beaucoup de ses partisans, et parmi eux Margaret Fell, dans la maison de laquelle il avait été appréhendé, furent également enfermés dans le château de Lancaster, où il existe une pièce encore appelée la Chambre des Quakers, parce qu'elle fut le théâtre des souffrances de nombre de ces chrétiens opprimés et non résistants. Cette critique calomnieuse est totalement impossible et ne sert qu'à montrer l'amertume de ses critiques. 300 ans après sa mort, il demeure encore l'objet d'envie et de ressentiment, ce qui atteste l'Écriture. Celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né de l'Esprit, il en est de même maintenant. Galates 4, 29. Cela commença avec l'envie de Caïn à l'égard de la faveur accordée par Dieu à Abel, et cela continue aujourd'hui. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. 1 Jean 3, 11-12-7 critique. Fox aurait prétendument écrit un papier préconisant que le Parlement adopte de nombreuses lois exigeant la destruction de toutes les peintures, sculptures, musiques et l'abolition de l'usage d'une langue étrangère, parmi bien d'autres exigences ridicules, afin d'imposer à toute l'Angleterre une religion plus que puritaine. Ce papier a été « découvert » en 2002 et publié avec joie par des universalistes Quakers, critiques de Fox parce qu'il affirma clairement qu'une foi en Christ est nécessaire au salut. Le papier s'intitulait « 59 points particuliers posés pour le règlement des choses et l'abolition des lois oppressives et des oppresseurs et pour soulager les opprimés ». Tentant d'expliquer son obscurité, le porte-parole des universalistes Quakers accuse en outre Fox et les premiers Quakers d'une conspiration visant à supprimer les preuves de ce papier. Réponse: dans les journaux détaillés de Fox, il n'est absolument jamais fait mention de ce papier, ni d'une quelconque démarche de Fox auprès du Parlement à ce sujet. Ni dans le journal officiel d'Elwood, ni dans le Cambridge Journal, la version non éditée établie à partir des manuscrits originaux de Fox de sa main, par Penney en 1905. Penney ne signale pas non plus de pages arrachées des manuscrits originaux pour la période de 1659, où ce papier aurait prétendument eu lieu, pourtant il indique des pages manquantes ou arrachées à d'autres périodes. De plus, le journal de Fox détaille ses conversations avec Cromwell, avec les gardes de Cromwell, avec des ministres, avec d'autres amis, etc. Et le journal comprend plusieurs lettres de Fox au Parlement, qui leur demandait de façon constante de cesser les persécutions, les critiquait au sujet des jeunes publics, les instruisait du véritable évangile, etc. En réalité, ce document allégué semble être un plagiat manifeste, avec d'absurdes exagérations ajoutées, de sa lettre au Parlement dans le volume 4 des œuvres de George Fox, que vous pouvez lire sur ce site. En 1659, les Quakers avaient déjà été massivement persécutés par le Parlement puritain. Les Quakers se rendaient au Parlement pour annoncer de sévères avertissements de leur chute. Le Parlement les chassait. Ainsi, ce papier suspect non seulement n'existe pas dans les récits détaillés de Fox sur les réunions et les lettres, mais il est totalement incongru avec les événements et les attitudes du Parlement à l'époque. Je cite la page 334 du volume 1 du Cambridge Journal, à l'époque de 1659, et beaucoup d'amis étant en prison à ce moment-là, plusieurs furent poussés à se rendre auprès des divers parlements, parfois par groupes de 200 à 300 à la fois, pour s'offrir à rester dans les mêmes cachots où leurs amis étaient détenus, afin que ceux qui étaient emprisonnés puissent sortir et ne pas périr dans les puants donjons et geôles. Nous l'avons fait dans l'amour de Dieu et de nos frères, afin qu'ils ne meurent pas en prison, et dans l'amour pour eux le Parlement, afin qu'ils ne mettent pas du sang sur leur propre tête, ce sang crierait vers le Seigneur et attirerait sur eux sa colère, sa vengeance et des fléaux. Et alors les parlements entraient en fureur, et parfois leur faisaient dire qu'ils les fouetteraient les Quakers et les renverraient chez eux. Et bien des fois, peu après, le Seigneur les le Parlement renversait et les renvoyait chez eux, eux qui n'avaient pas eu le pouvoir de faire le bien en leur temps, le Seigneur renversa le Parlement et renvoya ses membres chez eux, eux qui n'avaient pas usé de leur pouvoir pour faire le bien en leur temps. Voir aussi Early Quake l'était pour confirmer cette menace de fouetter les Quakers hors du rôle du Parlement jusqu'à leur maison, la même année où cette lettre suspecte aux exigences extravagantes aurait été remise au Parlement. Ce n'était pas le moment de soumettre des requêtes au Parlement. En particulier, lorsque les Quakers avertissaient le Parlement qu'il allait être renversé, la restauration de la monarchie devant survenir peu après. Certaines positions énoncées dans ce papier incriminé ne sont étayées par aucun autre écrit Quake connu et entrent gravement en conflit avec le message général de tous les premiers Quakers de cette époque, comme indiqué ci-dessous. Tiré des mémoires d'Edward Burrough, nous attestons que la venue du Christ dans son royaume ne se fait ni par la force, ni par la puissance, ni par le faste, ni par une gloire extérieure, ni par aucune loi qui relève de la volonté de l'homme. Notre désir est qu'il n'y ait aucune loi en matière de religion, car elle n'a besoin d'aucune loi pour la protéger. La religion pure et sans tache, c'est ceci, défaire les liens de la méchanceté, mettre en liberté les opprimés et ôter tout joug. Nous ne sommes pas de ceux qui méprisent le gouvernement et souillent la chair, qui abaissent les autres pour s'élever eux-mêmes. Fox avertit à maintes reprises les premiers Quakers de ne pas se mêler des puissances de ce monde. Voyez son journal et ses lettres. Voyez aussi les conseils de la Réunion générale à toutes les assemblées qui reprennent l'avis de ne pas se mêler au pouvoir extérieur. Cela était fondamental parce que, comme prédit dans l'Apocalypse, ils avaient vu comment les catholiques romains s'étaient mêlés aux empereurs et aux rois, et comment Martin Luther, ayant reçu la protection contre les persécuteurs catholiques, avait donné son aval à une alliance entre l'Église et l'État en Saxe, de tel mélange étant une fornication avec les rois de la terre. William Penn déclara que la grande erreur des réformateurs protestants fut la suivante: Au lieu de souffrir patiemment la persécution pour leurs croyances, ils coururent vers les puissances de la terre pour obtenir protection, ce qui entraîna un compromis de leurs principes, d'après de Truppen de Sidney Fisher P. 71, les Quakers en tant que groupe restèrent à l'écart de la vie politique. Cela est en accord avec le conseil de Paul dans 2 Timothée, chapitre 2, 4. Nul homme qui s'engage dans la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie. Et avec l'ordre de Pierre en 1 Pierre 2, 3, 4. Soumettez-vous à cause du Seigneur à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. Certaines des positions particulières, telles qu'énoncées dans ce document présenté, sont en contradiction directe avec ce que George Fox et le reste des premiers Quakers enseignaient et écrivaient. Ah, le papier suspect réclame l'enlèvement et le brûlage de toutes les peintures et sculptures de tous les bâtiments publics et des résidences privées, par ordre du gouvernement. Fox n'a jamais préconisé une telle pratique dans aucun de ses centaines d'autres écrits, où il n'était pourtant pas avare de mentionner tout ce qu'il estimait devoir être porté à l'attention des premiers Quakers. La mode, le fait de jurer, l'ivrognerie, le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, la fraude dans les affaires, l'endettement, la convoitise, l'avidité, les abus envers les domestiques, les peines judiciaires injustes pour des délits mineurs, le fait de servir trop d'alcool dans les auberges, le relâchement des maîtres d'école, l'aveu. Mais il n'a jamais réclamé du Parlement une législation pour aucun de ces points. Un tableau représentant le premier mari de Margaret Fox, le juge Fell de Swarthmore, la résidence de George Fox dans ses dernières années, existe encore, une photo est à droite. Si telle avait été sa position, il l'aurait sûrement détruit, il ne l'a manifestement pas fait. Il existe même encore des peintures de George Fox, plusieurs montrées sur le journal de ce site, deux d'entre elles ont été peintes par S. Sheen, l'une à gauche, puis gravée, et une autre peinte par Sir Lely. Il y a aussi sur ce site un portrait de William Penn en armure, de toute évidence, Penn n'a pas détruit ses portraits non plus. Fox a écrit avec force contre le fait de posséder de l'art comme des idoles hautement valorisées, ou de le posséder par vanité ou orgueil. Mais l'art n'est pas un problème, à moins qu'il ne soit exhibé par un individu avec orgueil. Les objets d'art relèvent donc de la conscience individuelle. Puisque des Quakers de premier plan possédaient de l'art, il est ridicule de croire qu'ils auraient préconisé, par la force de la loi, l'enlèvement et le brûlage de l'art dans tous les bâtiments publics et privés et dans les maisons. Quelqu'un cherche, manifestement, à discréditer Fox par des exigences fausses et scandaleuses. Cette seule proposition aurait détruit le soutien aux Quakers dans toutes les nations. B. Le papier demandait aussi que parler dans une langue inconnue soit interdit. Selon Soule, astérisque Fox lui-même, à ses frais, publia un livre en néerlandais sur la vie de William Catton et le distribua. Et il publia aussi un livre, Battledo, avec des illustrations en 25 langues différentes montrant comment chaque langue permettait de s'adresser aux personnes au singulier et au pluriel, et il le distribua au roi et à toutes les autorités ecclésiastiques de l'époque. Interrogé par un juge au sujet de sa paternité du livre Battledo, le juge lui demanda s'il comprenait les 25 langues écrites dans le livre. Fox répondit, « Suffisamment pour moi. » Fox parlait aussi gallois, et à Londres, il travaillait chaque jour au siège mondial des Quakers, lisant et correspondant avec des étrangers à travers l'Europe et le monde. Il passa 2 ans en Hollande et en Allemagne, immergé dans ces pays. Le fils d'un huissier vint à la prison de Scarborough pour débattre avec Fox, lui parlant en hébreu. Fox lui répondit en gallois. Astérisque The History of the Quaker de Soule, publié pour la première fois en 1695, est considéré comme l'histoire de référence des premiers Quakers. Accusé ainsi Fox d'avoir voulu interdire l'usage des langues étrangères en Angleterre, en tant qu'auteur de l'énoncé, qu'aucun homme ne parle dans une langue inconnue, est naïf. Une formule semblable de Fox, tirée de la Bible du roi Jacques en 1 Corinthiens 14, 27, figure dans sa lettre N320, où Fox citait Paul au sujet du parler en une langue étrangère inconnue, non au sujet des langues terrestres. Paul disant aux membres de l'Église de ne pas parler en langue inconnue, à moins que quelqu'un ne puisse interpréter pour que le reste des membres comprennent ce qui est dit, soulignant qu'il ne serait d'aucun bénéfice de parler ce qui ne peut être compris. Il semble que quelqu'un ait extrait une phrase de la lettre de Fox, où il citait Paul au sujet des langues dans un service de culte, et non des langues étrangères en Angleterre. Fox critiquait l'usage du latin dans les églises, les tribunaux et le gouvernement, laissant beaucoup de gens incapables de comprendre les procédures. C'est une exigence ridicule, attribuée à Fox pour le discréditer, lui qui écrivit en plusieurs langues, en parla plusieurs et en comprit beaucoup. C'est le papier demandait l'interdiction de la musique, du violon et du chant de ballade. Fox était opposé à la participation des Quakers à une musique qui ne soit pas pour la gloire et la louange de Dieu, mais il encourageait même le chant dans l'esprit pendant le culte et lui-même chantait. Un groupe de personnes se sépara même des Quakers parce qu'il encourageait le chant issu de l'esprit dans les réunions. Dans ses autres écrits, je ne trouve aucune trace qu'il ait jamais préconisé l'élimination de la musique du monde profane. Cela aurait été extrêmement controversé et aurait suscité une grande clameur et des écrits de critique des Quakers dénonçant leur extrémisme. Concernant les auberges, il fut très véhément, à l'oral et à l'écrit, contre les tenanciers qui faisaient trop boire les clients. Cliquez pour lire, les avertissant sévèrement des jugements de Dieu pour avoir mené les gens à l'ivrognerie en leur servant trop de boissons, mais il ne se plaît ni ne les avertit jamais au sujet de leur musique. C'est une déformation ridicule de l'une de ses remarques dans la lettre où il évoquait les maux de l'excès de boissons, qui menaient à faire venir le violoniste, puis à faire venir les prostituées. Fox organisa même une réunion de marchands de vin et d'aubergistes où il leur lut la lettre d'avertissement en question, et ils en reconnurent la vérité. Fox n'a pas préconisé d'interdire les violonistes par la loi, c'est une accusation ridicule, il n'a fait que mettre en garde contre l'excès de boissons, pas contre les violonistes. Dave Fox et beaucoup d'autres Quakers écrivaient constamment aux dirigeants de l'Angleterre et au Parlement, mais sur des thèmes de salut, avec des supplications et des avertissements pour qu'ils cessent de persécuter les Quakers qui suivaient leur conscience au sujet des dîmes, des serments, etc. Ils n'auraient jamais dilué leurs supplications par certaines exigences législatives, aussi ridicules que celles de ce papier. Si le Parlement avait jamais adopté les dispositions de ce papier scandaleux, cela aurait soulevé toute la population contre le Parlement et contre les Quakers. Le papier appelait essentiellement à légiférer une morale entièrement nouvelle pour la nation anglaise, ce qui, s'il l'avait réellement préconisé, aurait nui de manière incommensurable à la cause Quaker. Plutôt que de légiférer la morale, Fox et les premiers Quakers orientaient les gens vers Christ, la lumière comme maître. Cette lumière montrerait à un homme ses péchés, puis les ôterait de son cœur, un à un, tandis qu'il demeure en Christ la lumière. Extrait ci-dessous, tiré de l'une de ses lettres, reflète son attitude envers le gouvernement, resté à l'écart de toute préoccupation concernant le gouvernement, hormis le soulagement de leurs souffrances innocentes, tiré de la lettre 359 George Fox, et tenez-vous à l'écart de l'esprit agité, mécontent, troublé du monde au sujet du gouvernement, car vous savez que cela a toujours été notre voie de chercher le bien de tous, de vivre paisiblement sous le gouvernement, et de rechercher leur bien éternel, leur paix. Souvenez-vous de ceci. Il y avait en son temps beaucoup, beaucoup d'ennemis acharnés de Fox qui le haïssaient intensément, au point de tenter à maintes reprises de l'assassiner. Si Fox avait publié, en son temps, le document en question tel qu'il est présenté, le tollé dans tout le pays aurait produit une avalanche d'écrits dénonçant cet ensemble ridicule d'exigences, et cette trace écrite existerait encore aujourd'hui en masse, or, on ne trouve rien de tel. Les faux visant à discréditer les Quakers détestés étaient courants du temps de Fox. Je soupçonne que quelqu'un a pris nombre de ses paroles et de ses écrits et y a ajouté quelques exigences ridicules pour discréditer Fox. En réalité, ce document allégué semble être un plagiat manifeste, avec d'absurdes exagérations ajoutées, de sa lettre au Parlement dans le volume 4 des œuvres de George Fox, que vous pouvez lire sur ce site. S'il a été écrit au XVIII siècle, il a été par leurs ennemis acharnés, les Rantais, ou par un ex-Quaker John Perrow, qui écrivit deux pamphlets anti-Quakers, The Spirit of the Rat et Tyranny and Hypocrisy Detected, et qui fut pris dans un faux attribué à Edward Burroughs. Tel qu'il est présenté aujourd'hui, il n'a certainement jamais été publié et diffusé à moins qu'il n'ait été clairement identifié comme un faux à l'époque, car si Fox avait réellement écrit ce papier tel qu'il est présenté aujourd'hui, et qu'il ait été publié, Fox aurait été tourné en ridicule dans toute l'Angleterre. Cliquez ici pour lire un véritable document soumis par Fox au Parlement, vous n'y trouverez rien d'extravagant. On ne trouve aucune clameur consignée de la part des innombrables critiques bruyants qui n'hésitaient jamais à imprimer en masse même des mensonges sur les Quakers. S'il avait été publié du temps de Fox, il aurait été immédiatement discrédité, mais il y aurait une trace de l'indignation initiale et une trace claire de sa réfutation. S'il a été publié, il a été aussitôt dénoncé comme un faux parmi tant d'autres. La plupart des faux seraient détruits, mais quelques-uns survivraient naturellement. Et si une copie non détruite était découverte des années plus tard, on pourrait la croire authentique. Ce papier était adressé au Parlement. S'il avait été publié et envoyé au Parlement comme on l'allègue, il aurait suscité une enquête du Parlement, suivie de la diffusion dans toute l'Angleterre d'un document parlementaire relatant le déroulement de l'enquête, afin de discréditer les Quakers. C'est exactement ainsi que le Parlement a exploité la faute de jugement de Naylor et s'est servi d'un incident assez sot pour tenter de détruire les Quakers. En décembre 1656, Naylor fut jugé par ce même Parlement pour l'accusation grandement exagérée de blasphème. Il fut condamné à être fouetté publiquement, traîné derrière une charrette à Londres et à Bristol, à avoir la langue percée d'un fer rouge, et à avoir la lettre B marquée au fer sur le front, suivie d'un emprisonnement à vie. Le Parlement, dont le bras avait déjà tué tant de fidèles et de justes, haïssait les Quakers et aurait saisi cette occasion pour discréditer les Quakers et stopper leur croissance, qui menaçait les puritains, baptistes, épiscopaliens et presbytériens qui siégeaient au Parlement. Au moment de cette publication que Fox aurait prétendument présentée au Parlement, les premiers Quakers étaient haïs par le Parlement, des milliers étaient en prison, et les Quakers adressaient au Parlement de terribles avertissements. Les faits de l'époque excluent la possibilité que Fox ait adressé au Parlement ses exigences ridicules. Pour expliquer l'obscurité de ce papier, les universalistes Quakers d'aujourd'hui accusent Fox et les premiers Quakers d'une conspiration réussie pour le faire disparaître, prétendument par crainte d'embarras et de critiques. Mais les universalistes allèguent aussi qu'il a été remis au Parlement, donc il n'aurait pas pu être caché. La seule explication logique de son obscurité est qu'il n'a jamais été publié. Puisqu'il existe des registres des travaux du Parlement, incluant la réception des lettres qui lui étaient présentées, je mets au défi les universalistes Quakers de produire la preuve que ce papier a jamais été présenté au Parlement. Ce défi a été lancé plus tôt en 2009, et au 17-5, rien n'a été produit par les universalistes Quakers. Le document dont Fox est accusé d'être l'auteur, bien que la plupart de ses dispositions aient été publiquement défendues par Fox, présente plusieurs points qui ne le sont pas. Ceci, ainsi que l'absence de toute trace de critique, indique clairement qu'il s'agit d'un faux. Les faux étaient courants à cette époque, et il m'a été dit par la parole du Seigneur au-dedans, il a été écrit par un ranté. Résumé, beaucoup de gens ont du mal à croire que quiconque, en dehors des apôtres de l'Église primitive, puisse posséder le même esprit que les apôtres, parler la parole de Dieu et manifester la puissance de Dieu, comme l'atteste le témoignage sur George Fox, voire miracle. N'étant pas eux-mêmes dans le royaume, se tenant dans la présence de Dieu, en communion avec Christ et le Père, et parlant comme Dieu le commande, ils ont du mal à croire que George Fox puisse être dans cet état, voire Fox in the Lord. N'étant pas au paradis, dans le royaume, dimension spirituelle de Dieu, ils ont du mal à croire que Fox le fut, voire son témoignage et la confirmation de Margaret. Se trouvant incapable d'accepter que quelqu'un d'autre ait pu atteindre ce qu'ils n'acceptent même pas comme possible, ces personnes commencent à chercher une raison pour que ces affirmations soient fausses, cherchent des fautes chez la personne qui les avance, saisissent tout ce qui pourrait excuser leur état inférieur comme justifié. Car s'ils admettaient que quelqu'un d'autre ait atteint une élévation spirituelle supérieure à la leur, ils seraient alors contraints de remédier à leur insuffisance. Ils excusent donc leurs propres manquements en concluant finalement que quiconque prétend être pur, dans le royaume et en union avec Christ et le Père, doit être dans l'illusion. D'un autre grand Quake des débuts, Stephen Crisp écrit dans l'une de ses lettres à l'Église, « Ainsi ils grandissent au point de dire du mal des dignités, ils sont indisciplinés et osent parler contre le ciel et contre ceux qui y demeurent et y habitent, que Dieu fait briller comme des étoiles dans le firmament de sa puissance. Mais hélas pour eux, mon âme les plaint quand je vois comment ils se diminuent par leur propre tromperie, mais le jour du Seigneur est parmi son peuple et il les a rendus et les rend manifestes, eux et leur esprit, et leurs fruits aussi les ont rendus manifestes. Les critiques de Fox ont commis l'erreur fondamentale de supposer qu'ils sont aussi éclairés que Fox. Leur opinion serait donc aussi solide que les enseignements de Fox, puisqu'ils ont Christ eux aussi. Mais Isaac Pennington, un grand digne du Seigneur, réduit une telle logique à néant dans un extrait de l'une de ses lettres. « Et amis, vous qui êtes faibles, bénissez Dieu pour l'effort. Vous qui avez besoin d'un pilier sur lequel vous appuyez, bénissez Dieu, qui a pourvu des piliers dans sa maison. » Et dans la crainte et sous la conduite de son esprit, servez-vous de ces piliers qui sont fidèles et qui ont de la part de Dieu, dans sa puissance et sa présence glorieuse avec eux la capacité d'aider à soutenir son édifice, tout comme ils avaient de la part du Seigneur, la capacité de rassembler à lui. Celui qui méprise celui qui est envoyé méprise celui qui l'a envoyé, et celui qui déprécie quelque don, quelque charge ou quelque œuvre que Dieu a accordée à une personne, méprise la sagesse et la disposition du donateur. Sont-ils tous pères? Ont-ils tous vaincu l'ennemi? Sont-ils tous parvenus à maturité dans la vie? Sont-ils tous des étoiles dans le firmament de la puissance de Dieu? Dieu a-t-il rendu tous égaux? N'y a-t-il pas des états différents, des degrés différents, des croissances différentes, des places différentes, etc.? Alors, si Dieu a fait une différence et donné des degrés de vie et des dons différents selon son bon plaisir, Quelle est donc cette sagesse et cet esprit qui ne le reconnaissent pas, mais voudraient rendre tous égaux, ô mes amis? Craignez devant le Seigneur, honorez le Seigneur dans ses manifestations et dans les différences qu'il a faites parmi les enfants des hommes et parmi son peuple. Il donna autrefois des prophètes, et le reste du peuple n'était pas égal à eux. Il donna des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, etc. Et les autres membres des églises n'étaient pas égaux à eux. Il a donné maintenant des pères et des anciens, et les petits-enfants et les jeunes gens ne sont pas égaux à eux. Ainsi en est-il en vérité de la part du Seigneur, et ce qui est de Dieu en vous le reconnaîtra ainsi. Veillez donc, chacun, à sentir et connaître sa propre place et son service dans le corps, et à être sensible aux dons, aux places et aux services des autres, afin que le Seigneur soit honoré en tout, et que chacun soit reconnu et honoré dans le Seigneur, et non autrement. On pourrait croire que, puisque les grands hommes de Dieu ont révélé les mystères des Écritures et du royaume, les plus jeunes seraient humbles et respectueux, s'en remettant à leur sagesse et à leur plus grande mesure de Christ. Mais l'orgueil est aveugle. Nous avons donc 300 ans de Quakers orgueilleux et immatures, doutant de l'existence d'un paradis glorieux ou du royaume, rabaissant George Fox, George Whitehead, Stephen Crisp, Isaac Pennington, William Dewsbury, Edward Burroughs, Francis Haugill, Margaret Fox, etc. Ces véritables saints de Dieu, comme des fanatiques dans l'illusion, tout comme beaucoup de protestants modernes regardent à tort l'apôtre Paul comme quelqu'un de très coincé et guindé. C'est triste. Je ne comprends pas une réticence à accepter que la position de quelqu'un d'autre en Christ soit au-dessus de ce que cette personne peut prétendre. Je peux aisément admettre, mon état est inférieur à celui de George Fox, pourtant je ne l'envie pas. Je ne fais que l'admirer, et je suis reconnaissant pour son témoignage, qui me donne de l'espérance, qu'à travers Christ, moi aussi, je pourrai un jour goûter la communion avec Christ et le Père, dans le royaume des cieux, marchant et parlant d'une manière qui honore et glorifie mon Maître et mon Père céleste. Mais ma recherche est comme le Seigneur me l'a dit un jour, imagine un lieu où chacun court la course au maximum de ses capacités, mais s'efforce d'arriver dernier. Fox était le plus humble de tous, car plus on possède de la mesure de Christ, plus on possède d'humilité. J'ajouterai que ma foi est certaine quant à ce que j'espère, comme en témoignent les changements que Christ opère en moi sur le chemin. À ceux qui haïssent Fox à cause de son témoignage selon lequel Jésus est le seul chemin, je ne discuterai pas cela. Je leur suggère, plutôt de lire sur ce site le témoignage identique de 25 autres Quakers, puis de lire les centaines de prophéties accomplies dans la vie de Christ, et celles qui attestent la divinité de Jésus. Au-delà de cela, je m'en remets à Jésus pour montrer à quiconque a un désir sincère de savoir, en suivant les paroles ci-dessous de Jésus lui-même, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Jean 7, 17. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.